Amis de Radio-Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Je cite souvent Amélie Nothomb quand elle dit « Sans ennemi, l'être humain est une pauvre chose. Sa vie est une épreuve, un accablement de néant et d'ennui. » Mon Dieu, comme c'est vrai, comme ça a toujours été vrai, certainement, et comme ça l'est aujourd'hui. J'ai glané quelques phrases dans un très beau livre de Frédéric Pajac, son Manifeste incertain numéro 10, Manifeste incertain que je vous invite à lire pour deux raisons. D'abord parce que il est toujours significatif de la littérature, puisque Frédéric Pajac, là par exemple dans ce Manifeste incertain numéro 10, va nous parler du poète, de l'écrivain et poète aussi Malcolm Lowry, et du sculpteur et peintre Alberto Giacometti. Voilà. Donc on apprend beaucoup, bien sûr, et d'une façon très fluide, très agréable, très ludique, dirais-je, sur ces deux grands artistes connus internationalement, bien sûr, mondialement connus, et qui sont passés dans l'universalité. Mais également, on a chez Frédéric Pajac toujours ses réflexions personnelles, puisque Frédéric Pajac est lui-même un artiste. Et donc, il mêle la vie des artistes dont il parle et ses propres pensées. Voilà ce que j'ai pu glaner. D'abord, de Malcolm Lowry, qui dit que, grosso modo, une prose simple, dépouillée, même sèche, est plus proche de la poésie, peut-être, que des vers travaillés et tarabiscotés. Totalement vrai. Il ajoutait, votre vieux Malk, donc de Malcolm, tout en restant de cœur un anarchiste chrétien à tendance conservatrice, finit par rejoindre les rangs de la petite bourgeoisie. Voilà, c'est vrai de combien d'artistes. Et il poursuit en disant, chacun est d'une égale politesse, condition première de toute démocratie. Donc la condition première de la démocratie, c'est d'être, que chacun d'entre nous soit d'une égale politesse. Cette politesse qui est en train de disparaître, et qui est remplacé, semble-t-il, par ce que les médias appellent pudiquement les incivilités, qui ne sont rien d'autre que des manifestations de violence, puisque la violence semble régner sans maître maintenant sur notre pays et, en définitive, dans le monde. Alors, le plus grave défaut des Français, selon Lowry, savez-vous ce que c'était ? Il disait ça, hein, Malcolm Lowry, il y a quand même 50 ans. Hein. Alors il disait, en parlant de nous, les Français, ils n'écoutent jamais ce que les autres disent. Pas étonnant que leur gouvernement tombe. C'est rigolo, non ? Ou plutôt, ils parlent tellement tous à la fois qu'ils ne l'entendent peut-être pas tomber. Voilà, on retrouve là l'humour de Malcolm Lowry. Mais combien cette petite phrase-là, ces petites phrases sont en définitive tout à fait prophétiques. Et puis reprenons Frédéric Pajac. Voilà ce qu'il dit sur notre époque. Musique, danse, cinéma, télévision, bande de tennis dessinée, dessin animé, jeux, sport. La distraction a remplacé la vie. Je suis le contemporain de ce nivellement par le bas. J'ai voulu, à ma faible mesure, faire face à l'offensive triomphante. Trop tard, la société s'est chargée en une société mondiale, de plus en plus mondialisée, de plus en plus marchande, de plus en plus technologique. Chacun s'est retrouvé connecté, consommant les mêmes objets numériques. Une société capable de se dédoubler en un monde virtuel, atténuant, tout en le confortant, le mal de vivre de ces joueurs insensés, une société où prolifèrent les instruments les plus sophistiqués de la surveillance et de l'ordre. Que deviendront-ils, ces enfants, né sous le régime de la mutation informatique. La question est posée. Elle est posée par Frédéric Pajac. Et puis, il cite une phrase d'Aragon, que j'aime bien, évoquant la première guerre mondiale, hein, la guerre 14-18, là. Louis Aragon, cette boucherie extraordinaire quand même, hein. Louis Aragon, il avait noté ceci, écoutez bien. C'était une guerre des vieux pour des raisons qui avaient exalté les vieux, qui ne touchaient pas les jeunes. Et c'était les jeunes qui la faisaient pour les vieux. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant d'une revue de poésie que j'aime beaucoup. Alors, il s'agit de la revue Nouveau Déli, revue de poésie vive, le numéro 82, qui a paru donc ce mois d'octobre de cette année. Je vais vous donner tout de suite, pour ne pas l'oublier, les conditions de... Vous pouvez vous procurer cette revue. Cette revue, qui s'appelle donc Nouveau Déli, est à commander aux éditions Nouveau Déli, 415 route de la Grèze, 46-300 à Soucirac, dont on est dans le Lot, à côté de Saint-Cyr-la-Popie, où elle était établie avant cette revue. Et l'abonnement à la revue donc Nouveau Déli vous coûtera pour 4 numéros 40 euros. Voilà, 40 euros que vous pouvez adresser à l'adresse donc, que j'ai citée tout à l'heure. Vous pouvez également voir le site de cette revue, hein, la revue Nouveau Déli. hautefort.com. Bon, mettez simplement la revue Nouveau Déli et le moteur de recherche vous la trouvera. Alors ce numéro 82, d'abord il faut saluer le travail de Cathy Garcia Canales qui dans ce numéro donc qui réalise, hein, qui est la directrice donc de Nouveau Déli et qui donc a réalisé 82 numéros, c'est beaucoup, vous savez, pour ça veut dire que il faut arriver à avoir cette permanence, cette régularité, et toujours en étant dans l'extrême qualité. Alors ce numéro, nous allons y consacrer l'émission. Pourquoi? Parce que ce numéro, d'abord, il faut saluer le travail de quelqu'un comme Cathy Garcia Canales qui l'a mais sa vie un petit peu au service des autres artistes. Et ce numéro, il est consacré à des poètes d'Amérique latine. Voilà. Donc, c'est un numéro qui est bilingue, c'est-à-dire qu'il y a les textes en espagnol et il y a les textes avec la traduction en français. Et, pour une fois, l'éditorial de cette revue, c'est Laurent Bouisset qui nous le donne, ce n'est plus donc Cathy Garcia Canales. Et cet éditorial, pour vous faire ensuite vous amener au texte évidemment des poètes donc sud-américains, je vais vous le lire. Retour en Amérique latine 8 ans après. Nous avions proposé en 2017 un Nouveau Déli spécial Guatemala. Et voici aujourd'hui ce travail mêlant deux poètes d'Amérique du Nord, du Mexique, et trois autres d'Amérique centrale, donc le Guatemala à nouveau. Alors il s'agit de Vania Vargas, laquelle était déjà présente en 2017, et nous avons ici, nous dit Laurent Bouisset, traduit quelques poèmes de son dernier recueil en date, Generalidades y Reglas de la Fuga. C'est l'éditorial Sophos de 2024. À nouveau, cette précision cinématographique de ces courts textes. À nouveau, cette densité du moindre mot. Cette façon d'esquisser des espaces opériens immenses où chaque vers semble abriter une présence fragile. Julio Palencia, est un compagnon de route, présent sur le blog Fuego del Fuego depuis plus de 10 ans. Il revient dire le monde avec cette concision presque orientale qu'on lui connaît, cette manière discrète d'empoigner au lieu d'une plume un sabre doux. Sa lame, ainsi coupant les ornements, attiserait la vie, je crois, au lieu de l'enlever à quiconque. Isabel de los Ángeles Ruano est une poète guatémaltèque emblématique, un personnage entier, fougueux, hypersensible, comme tous, et empathique à chaque instant, dont on découvrira ici la nuit cosmique, la furie par instant terrible, la clarté plus soyeuse parfois, la détermination surtout, l'envie, la gnaque, fragile on pourrait dire. Tandis que j'essayais de la traduire, nous dit toujours Laurent Brousset, j'ai cru sentir le mistral traverser les murs. Jorge de Vargas et César Aguiano sont deux poètes de Colima, au Mexique, qui avaient déjà été traduits par Patrick Guillet en France. Grâce à la revue Teste, j'ai d'abord rencontré Jorge, qui m'a généreusement envoyé depuis le Mexique un livre de César plutôt que de m'adresser un des siens. Vous voyez ? Bon. Ces deux amigos ont des écritures sans doute distinctes. Jorge décrit les chocs du réel direct, invasif, torturant, sous la forme d'un journal de guerre terrible. César, lui, aussi entaillé par la réalité du monde, me semble envisager les choses avec davantage de recul. L'ironie l'aide à ne pas sangloter, je crois. Y a-t-il un pont, un lien, un semblant de nerf unissant ces cinq écritures? Plus d'un écho involontaire nous semble perceptible d'une œuvre à l'autre. Partout, cette tension du texte, de part en part électrifiée par une nécessité plus que vitale. Si les destins de ces poètes ont été différents, certains ont pris le réel en pleine gueule, d'autres de manière moins frontale, l'ensemble de leurs vers exsude une même inquiétude profonde. Comment vivre ici même, là-bas? Comment continuer à vivre en ayant vu, en ayant entendu tout ça? L'exigence éthique de l'écriture semble être le poumon que l'on cherche, là où la violence règne et tue. Un poumon qui n'est pas un Graal, très loin de là, mais qui peut maintenir à flot un modeste moyen de respirer, c'est déjà ça, nous dit Laurent Brousset. Voilà. Alors on va se reconnaître dans cette violence qui gangrène depuis longtemps, plus longtemps que nous. L'Amérique du Sud, et en particulier donc l'Amérique centrale quand même, et aussi l'Amérique du Nord avec le Mexique. Cette violence-là, elle arrive à grande vitesse chez nous aussi. Alors on va commencer par César Aguiano. Alors, qui est-il? Nous allons voir qui c'est. César Aguiano. Alors il est né à Colima, comme l'a dit tout à l'heure dans l'avant-propos Laurent Brousset. Donc il est né au Mexique. Il est auteur de romans, de nouvelles et de pièces de théâtre. En 2009, après le début de la guerre contre le trafic de drogue, cette guerre qui fait rage actuellement avec Trump, il commence à écrire des poèmes secrets, qu'il ne dévoilera que plusieurs années plus tard sous le titre La sangre y las cenizas, le sang et les cendres. Un livre publié pour la première fois en Espagne, puis traduit par Patrick Quillet, que nous saluons ici, et publié en France. Les poèmes donc qui sont proposés dans cette revue Nouveau Délit appartiennent à un troisième recueil qui s'appelle La Huella de los Otros. Et ce recueil, c'est peut-être le moins violent et le plus abouti de la série. Anguiano utilise la nouvelle et le roman pour dire ce qui, certes difficilement, peut encore être mentionné dans une conversation publique. Sa poésie tente, en revanche, d'explorer les territoires de l'innommable. Bon, et donc on voit que cette poésie donc essaie d'explorer les territoires de l'innommable. Elle rejoint bien sûr, je lisais avant de venir, des vers de... des vers de notre ami Thierry Metz, notre ami disparu Thierry Metz, et lui aussi a cherché à explorer ces territoires de l'innommable par la langue. Mais c'est autre chose dont nous parlerons bientôt. Donc écoutons la voix de César Anguiano. No es verdad, padre, que existe un lugar donde nuestra hombría le rumbrará por siempre, donde nuestra vida casi animal se verá libre de todo impedimento. No es verdad que existe un sitio donde se ríe eternamente, donde podremos concluir todo lo que se quedó en cimientos. No es verdad, Betty, que volverás a recibir besos, que exista una playa donde nuestro cuerpo será por fin perfecto. No es verdad que exista un sitio donde seremos por fin recompensados. No hay nada más allá, lejanísimos, amados muertos míos. Todo lo que tenemos es este humo, este puñado de luz y este mar de sombras que llamamos vida. Ce n'est pas vrai, mon père, qu'il existe un lieu où notre virilité brillera jamais, où notre vie presque animale sera libéré de toute entrave. Ce n'est pas vrai qu'il existe un lieu où nous rirons pour l'éternité, où nous pourrons parachever ce qui n'était encore que fondation. Ce n'est pas vrai, Betty, que tu recevras à nouveau des baisers, qu'il existe une plage où nos corps seront enfin parfaits. Ce n'est pas vrai qu'il existe un lieu où nous serons enfin récompensés. Il n'y a rien au-delà, ô mais lointain, mais si lointain, mort bien-aimé. Nous ne possédons que cette fumée, cette poignée de lumière et cette mer d'ombre que nous appelons la vie. Voilà, donc un regard très lucide du poète qui arrive justement à cette vie qui est difficile dans les conditions, et qui dit, c'est les conditions de vie, mais qui dit que bon, tout ça, eh bien, il reste toujours, il reste l'essentiel, et l'essentiel, c'est la vie. Le jour de la poésie. Il paraît qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Ou ta fête. Mais je n'ai pas envie de te nommer poésie. Je n'ai pas envie de t'écrire. Ni de te chercher. Ni de te trouver par hasard dans la couleur du ciel. Je ne sais pas pourquoi. Justement aujourd'hui. Alors, que tout le monde te cherche et te célèbre. Je voudrais te maudire et t'accuser. Pourquoi permets-tu que les funérailles de tes amants soient si tristes? Pourquoi jettes-tu les copecs dans leurs poches plus chichement qu'au compte-gouttes? Je ne te célèbre pas, poésie, car je ne célèbre pas le bâton qui me frappe. Car je sais bien que sous ton déguisement de fleurs, ton manteau d'étoiles, tes longs cheveux d'aurore, tu caches de grandes dents, le mépris, les rêves brisés, la fin de tous ceux qui t'aiment ou t'ont aimé un jour. Je ne te chante pas. Je ne te dirai pas non plus que tu as été un grand cadeau. Pourquoi devrais-je te célébrer si tout ce que tu as fait, c'est donner de la musique à mes chagrins, du rythme à ma faim, de vaines métaphores à mes larmes, de la solitude et de l'incompréhension à mes jours. Alors, poème assez terrible, hein, qui dit deux choses. D'abord, que la poésie, d'abord, elle se nourrit de tout. Et là, quand on vit dans des conditions difficiles, dans des conditions qui sont peut-être le contraire même de ce que l'on pourrait penser comme épanouissant pour la poésie, quand on vit là dans cette espèce de misère sociale, de misère culturelle, et que l'on voit s'effondrer tout ça, toute cette richesse qui est en l'homme, et qu'on la voit pulvérisée par la volonté délétère de quelques-uns. Bien sûr, la poésie peut paraître ce qu'elle est, c'est-à-dire ne pouvoir nous donnant que de vaines métaphores à nos larmes. Mais en même temps, la poésie règne sur tout, c'est-à-dire que rien ne lui échappe. Et là, en disant qu'il se révolte un peu contre la poésie, parce que justement, la poésie est difficile, et qu'elle se donne pas comme ça, mais en même temps il dit bien que rien n'échappe à la poésie, et que même celui qui vit il y a peu de temps, on avait fait une émission sur un poète juif qui avait vécu dans le ghetto de Varsovie et qui avait écrit justement sur cette période là, la période la plus morbide qu'un être humain puisse vivre. Poursuivons avec ce poète. Nadie debiera, muy de mañana, anunciar la muerte de nadie. Nadie deberá oponer semejante obstáculo a la difícil cuesta del inicio de día. Nadie deberá estrujarte el corazón de semejante manera. Bastante ya respirar, contemplar las pequeñas miserias que nos esperan a lo largo del día. Bastante es ya considerar que de la vida verdadera habrá muy poca o nada. Deberán al menos esos anunciadores de penas permitirnos el café, asomarnos un poco por la ventana y descubrir una nube, el ave que ha cantado un poco entre las frondas, mirar un rayo de sol antes de descargar sus golpes. Nadie
debería anunciarte la muerte de nadie. Recordarte que tú mismo tienes los días contados, dejarte sin motivos, sin razones para luchar, sin manera de contener el llanto, ni fuerza para comenzar el día. Personne ne devrait au petit jour annoncer la mort de personne. Personne ne devrait ériger un tel obstacle sur la pente ardue du jour qui commence. Personne ne devrait t'essorer le cœur comme ça. C'est déjà bien assez de respirer, de contempler les petites misères qui nous attendent au fil du jour. C'est déjà bien assez de se dire que la vie, la vraie, on la verra très peu, voire jamais. Il pourrait au moins, ces messagers de la tristesse, nous laisser prendre notre café, nous laisser regarder un peu par la fenêtre et découvrir un nuage, un oiseau qui chantait un peu dans les feuillages, un rayon de soleil au moins, avant de venir asséner leur cou. Personne ne devrait annoncer la mort de personne. Te rappeler que toi aussi tu as tes jours comptés, te laisser sans motivation, sans raison de lutter, sans possibilité de retenir tes larmes, sans force pour commencer le jour. Alors, poème un peu noir, hein, toujours noir quand même de ce César Anguiano. Tengo tierra en las uñas, barba de 5 días y muy poco dinero en la cartera. Pero una extraña dicha me recorre el cuerpo. No puedo dejar de sonreír, de pensar que no quiero nada, sino este poco, esta nada que tengo. El aplauso o las burlas amargas de los otros me tienen sin cuidado. Soy feliz bajo mis árboles, no unos árboles metafísicos, elevándose en las praderas del cielo, sino estos reales que sembró mi padre, han dejado de importarme los trofeos. La vejez, con una buena pensión y las cuentas bancarias. Me guste el olor a polvo, a polen y animales. He fracasado rotundamente. Y no sé por qué se me figura que he llegado por fin a mi destino. J'ai de la terre sous les ongles, barbe de 5 jours, une misère dans le portefeuille, mais une joie étrange parcourt mon corps. Je ne peux pas m'empêcher de sourire, de penser que je ne veux rien d'autre que ce peu, ce rien que j'ai. Les applaudissements ou les moqueries amères des autres me laissent indifférent. Je suis heureux sous mes arbres, pas des arbres métaphysiques qui montent vers les pâturages du ciel, mais ce bien réel qu'a planté mon père. Je me contrefous des trophées à ce stade, peu importe le montant de ma retraite et l'état de mon compte bancaire. J'apprécie cette odeur de la poussière, cette odeur du pollen et des animaux. J'ai tout raté. J'ai merdé complètement. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis arrivé enfin à destination. Voilà. Donc s'il est arrivé à destination, c'est que, pardonnez-moi du terme, mais c'est lui qui l'emploie. C'est qu'il n'a pas vraiment merdé, non ? Il me semble. Nous allons passer à une femme poète, Isabel de los Angeles Ruano. La nuit. Quel âge, quel froid, quelle tempête, peut-être plus terrible qu'une nuit de solitude. Une nuit sans rien, une caverne oubliée, un passage secret de glace. Je dis une nuit de solitude, une nuit de temps. Je ne parle pas de sexe, ni de la chaleur d'un corps. Je ne parle pas de quelqu'un, de quelque chose. Je parle d'une nuit de solitude face à l'univers, dans l'infini, seul, avec le cosmos scintillant, avec les questions fossiles, avec soi-même, avec tout. Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de correspondances entre ce poème plus bref et construit de façon très différente du poète de tout à l'heure, mais qu'en même temps, ils disent quand même un peu la même chose. Hein. Alors, qui est cette fameuse Isabel de los Angeles Ruano? Ben, c'est une poétesse guatémaltèque qui est née en 1945, donc il y a un certain âge, et qui a su marier le lyrisme personnel et un engagement social à travers une œuvre qui est étendue sur plusieurs décennies. Alors, ça part de Cariatide, ça a été publié en 1966, qui a été salué dans son premier recueil, donc, dès sa parution par Léon Felipe jusqu'à El Perro Ciego, le chien aveugle, qui a paru en 2020. Et sa poésie, c'est une poésie parfois rageuse, et souvent d'une tendresse douloureuse, se distingue par une tension permanente entre l'intime et le collectif, entre l'expérience vécue et la critique d'un pays traversé par les inégalités et la violence. Oui, Guatémaltèque, donc, les inégalités et la violence font plutôt rage. Alors, ces recueils, tels que Torres y Tatuajes, Tour et Tatouage, qui est paru en 1988, Los del Viento, ceux du vent, Café Express, ou Poemas Grises, révèlent une voix à la fois fragile et radicale, marquée par l'errance et la lucidité. Isabel de los Angeles Ruano a été couronnée par plusieurs distinctions internationales. Elle reçoit en 1979 le prix Givray de poésie en Argentine, puis en 2001 le prix national de littérature Miguel Ángel Asturias. Alors ça, ce prix, c'est la plus haute reconnaissance littéraire du Guatemala. Hein? Miguel Ángel Asturias, oui. On va parler de lui, peut-être, dans une émission. Alors, ce dernier, Miguel Ángel Asturias, souligne la cohésion rare et héroïque entre sa vie et son œuvre. Figure singulière de la littérature centra-américaine, Isabel de los Ángeles Ruano incarne une écriture sans compromis, qui défie les normes esthétiques autant que sociales, et sa trajectoire, souvent marginale, est marquée par la précarité, n'a jamais démenti la force de sa parole poétique, laquelle continue de résonner comme un témoignage vibrant de lucidité et de résistance. Vous voyez, partout, il y a ce mot, lucidité. Voilà. Donc les poètes de cette région, mais tous les poètes du monde doivent être dans la lucidité. Mes furies, mis furias, como amo mis furias, mis idomitas furias, y mis rebeldes furias. El potro rojo de mis furias de sangre, y mis furias de fuegos, y las furias salvajes que han retado al ocaso bajo un cielo rugiente. Me han atado las venas, las brillantes pasiones, y las furias gimieron bajo mi sol ardiente. Tuve escarpados muros en la frente encendiar, y mis fueros saltaron todas las barricadas. No creí que la hoguera de mi arsenal furioso poseyera a las piedras y mascara la luna, pero mis furias vivas como garras de tiempo son parte de mi carne y tienen mi violencia. Mes furies, comme j'aime mes furies indomptées, mes furies rebelles, et le rouge étalon de mes furies de sang, et mes furies de feu et les furies sauvages qui défièrent le couchant sous un ciel rugissant, m'avaient lié les veines, les passions vives, et les furies gémirent sous mon soleil ardent. J'ai eu des murs abrupts sur le front incendié, et mes furies franchirent toutes les barricades. Je doutais que les flammes de mon arsenal furieux posséderaient les pierres et mâcheraient la lune. Mais mes furies vivaces comme les griffes du temps font partie de ma chair, elles ont ma violence. Heure sans soutien, ora sin soporte. Aujourd'hui, tu perds un objet, demain, un autre. Comme si l'on t'arrachait la vie par morceaux. On te mutile la voix, tu n'as plus de larmes. On t'annonce le suicide d'un ami. Tu meurs à petit feu, toi aussi. Entre hier et aujourd'hui, chaque douleur est une nouvelle plaie, chaque instant une blessure. Le monde des choses capricieux ne répond pas à tes pensées. Les objets t'échappent comme de petits tyrans. Ils se dérobent et te font tourner, tourner, te cogner la tête, ou mâcher des bouts de papier avec une rage sans borne. Tu perds tout ce que tu as aimé. Tu t'enfonces sans retour dans tous les replis du passé. Et soudain, un chaos intérieur, la tempête, la folie, toute la rébellion, l'indescriptible entre en toi. Tes nerfs se tendent, tes dents s'acharnent, et cet invisible ennui des heures vides. Voilà, on va retrouver encore cette peur, évidemment, de ce vide, et cette lucidité, peut-être, de voir cette évidence, donc, des heures vides, cet invincible ennui des heures vides. Alors, c'est encore des poèmes assez noirs, c'est bien que Cathy Garcia Canales ait donné donc à ce numéro la parole
à ces poètes donc sud-américains, parce que il y a là aussi une souffrance qui est un peu occultée, mais bon, il y a tellement de souffrances maintenant partout, par la souffrance au Proche-Orient, par la souffrance en Ukraine et par toutes les souffrances dans les régions où ne règne pas, bien entendu, une paix sereine. Mi cuerpo. Este cuerpo que suena es muy urgente. Me hace su esclava. Me transporta, tiembla. Y vive por cosas que me son ajenas. Lo amo a veces, pero lo detesto. Me doblega, me vence, me envuelve en su delirio, me trastorna, ataje mi vuelo, tiene profundos dolores que me hieren. Su frustración enciende desquiciados anhelos. Sabe quemar y no se apaga su latir exigente. Tengo que sofocarlo, detenerlo, porque vibra en lo oscuro. Me vence tanto que lo desestimo, solo y vivo por él, y lo he odiado. Mon corps. Ce corps qui fait du bruit est très pressant. Il fait de moi son esclave. Il me transporte. Il tremble. Il vit pour des choses qui me sont étrangères. Je l'aime parfois, mais je le déteste. Il me plie, me défait, m'enveloppe dans son délire, me rend folle et entrave mon vol. Il a des douleurs profondes qui me blessent. Sa frustration enflamme des désirs effrénés. Il s'est brûlé et n'interrompt jamais son battement exigeant. Je dois l'étouffer, l'arrêter, car il vibre dans l'obscurité. Il me vainc tant que je le rejette. Ma vie lui appartient et je l'ai haï. La finitude humaine est effectivement due à notre corps. Mes mains. Ces mains que j'ai connaissent l'ascension suprême et l'ignominie la plus crasse. Elles sont comme deux éclairs ou comme deux humbles hirondelles captives. Elles s'entrelacent en prière, aiment avec sainteté ou délire, se frayent du feu, heurtent un visage. Ces mains que j'ai savent mentir, et elles sont impérieuses. Elles m'ont donné la passion sublime et la tendresse d'un ange de lumière. Elles portent le souvenir d'une aile fanée, savent où sont les sillons du vol, elles connaissent toutes les fièvres. Aurora Nueva. Amanecí de nuevo. No he muerto. Estoy viva. Respiro y soy. Aún soy con esta luz de fuego. Así soy con la aurora que nace. Así soy resonando en mi pecho, jubiloso y feliz.
Aube nouvelle. Je me suis réveillée à nouveau. Je ne suis pas morte. Je suis vivante. Je respire. Je suis. Je suis encore dans cette lumière de feu. Ainsi je suis, avec l'aube qui naît. Ainsi je suis en résonance avec mon cœur, joyeuse, heureuse. Nous allons finir avec cette poétesse, dont Isabel de los Angeles Ruano, avec Nous du vent. Nous du vent, nous qui portons des vers gravés au cœur du gouvernail de notre sang, nous, les porteurs de lianes troubles, nés dans l'incertitude de la race, oui, nous qui portons le destin cuirassé par-delà la couleur de notre sexe, par-delà les voies de l'héritage, par-delà la couleur de notre cri. Oui, nous allons chanter, chanter, comme si les mots germaient et que notre souffle n'était pas emprunté, comme si la lumière nous recouvrait vraiment et que la mort ne frappait pas à notre porte. Du cœur à l'âme, nous semblons ronger nos propres désirs, nous, les êtres de l'après-midi anéantis, nous, de l'automne perdu, nous, du vent, nous qui portons notre vie, plus attachés au ciel qu'à la terre, et qui chantons depuis toujours, chantons. Voilà. Donc, c'est l'épopée des poètes, hein, en définitive, qu'elle chante là. Nous allons passer donc à un nouvel auteur, un nouveau poète. Il s'agit de Julio Palencia. Alors, c'est un poète, essayiste et traducteur, guatémaltèque toujours. Hein. Il est né donc au Guatemala en 1961, hein. C'est une génération différente. Alors, il a connu l'horreur de la guerre civile au début des années 80, et notamment la séquestration et le meurtre, quand même, de certains de ses proches. Alors, il a dû s'exiler et vivre au Canada, avant de s'installer au Mexique, où il vit toujours, d'ailleurs, dans la capitale, hein, Mexico, il vit. Ses livres ont été publiés comme auteur Traseunte de la Muerte, de Alquimistas y Agoniria, Canción para Recién Nacidos, Todos los Silencio, et Los Caminos de mi Rostro. Et il a publié également des traductions de l'anglais vers l'espagnol. Et il s'occupe actuellement de sites internet, donc de poésie et de pensées critiques comme poesiaguatemalteca.com. Hein. Retenez simplement celui-ci, c'est facile. poesiaguatemalteca.com. Voilà. Nous donnerons tous ces renseignements peut-être dans le compte rendu de la légende de cette émission, que vous retrouverez bien entendu sur notre site lespoetes.site, lequel vous avez toutes les informations sur la poésie d'aujourd'hui et où vous pouvez retrouver toutes les émissions de ces dernières années. Julio Palencia, Animal Furtivo. Rassemble-toi, soupèse tes mots. Ce n'est pas parce que tu écris bien que tu dois signer des paroles creuses. La belle rédaction, l'orthographe et les bonnes manières ne servent à rien si le sac de jute que tu es ne sécrète qu'excréments. Ne méprise jamais le parfum d'une fleur. Ne ferme pas les yeux à la lumière recommencée de chaque jour unique. Le bonheur, animal furtif, se tapit dans le quotidien. Alors ça, c'est une idée vraiment de la poésie contemporaine des années 80, hein, des années 80, c'est-à-dire cette poésie du quotidien qui est une poésie très importante en France, hein, la poésie du quotidien.
Et une très belle poésie, hein. Voilà. Parce que, comme je dis sans cesse, il n'y a rien qui échappe au domaine de la poésie. Donc le quotidien aussi mérite d'être mis en valeur, mérite d'être chanté, mérite d'être mis en exergue. Parce que dans le quotidien, il y a chaque jour, et chaque jour, comme le dit ce poème, chaque jour est unique, ce que l'on oublie tout le temps, bien sûr, hein, que le jour que nous vivons, ce jour-là, aujourd'hui-là, au moment où je vous parle, eh bien, c'est un jour qui est unique. Mon père est devenu vieux. Mon père est devenu vieux. À 85 ans. Il cherche et fouille le livre de grand-mère française qui lui permette de saluer convenablement dans la rue, au restaurant ou dans le bus. Il continue à demander si le journal du matin a une rubrique de nouvelles locales. Quelque chose qui lui permette de connaître l'état du pays où il se trouve désormais. Il se soucie de moins en moins du Guatemala et de plus en plus des amis. Son passe-temps favori est quand ma mère lui lit les journaux en ligne pour connaître l'avancée des forces progressiste dans le monde. À 85 ans, il a la certitude que le monde sera meilleur qu'il ne l'est, que cette planète a pour vocation d'être un foyer pour tous. Voilà. Alors, ce père est quand même extraordinaire, hein. À 85 ans, donc il cherche le livre de grand-mère française, hein, donc quand il est en France, je suppose qu'il il essaie d'être le plus correct possible, hein, et il a cet optimisme vraiment qui vaut de l'or, hein, il a la certitude, donc ça valait mieux, tout ça valait mieux. Bon, c'est ce qu'il faut se dire, hein. C'est si ce qu'il faut se dire. Tengo el sentimiento enraizado de buscar siempre algo o a alguien. J'ai ce sentiment enraciné de toujours rechercher quelque chose ou quelqu'un. Il a écrit ça le 12 février 1984. C'était le jour où l'armée du Guatemala avait enlevé sa sœur. Aunque la historia la escriben los vencedores, nosotros tenemos la oportunidad de escribir poemas. Bien que ce soit les vainqueurs qui écrivent l'histoire, nous avons la possibilité d'écrire des poèmes. Voilà, nous allons terminer sur ce magnifique poème de quatre vers. Aunque la historia la escriben los vencedores, nosotros tenemos la oportunidad de escribir poemas. Voilà, cette opportunité d'écrire des poèmes, je vous la souhaite, est la plus longue possible. Et Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie. Je vous rappelle que tous ces poèmes sont extraits de Les Nouveaux Délits, revue de poésie vive, numéro 82. À la semaine prochaine.